Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonsoir, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Sors le Popcorn.
Wesh la famille. Bien, bien, je suis content, Zarma la Fafa.
Je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et aujourd'hui, je reçois Kalindi Rompfel.
Yes, bonjour, je suis trop contente d'être là. Alors moi, mon taf, c'est de m'occuper des rubriques cinéma et séries, ce qui justifie ma participation de temps à autre à ce podcast génial, dont j'ai écouté tous les épisodes et que j'ai trouvé brillant. Voilà, bravo à vous, vous avez fait un travail exceptionnel, je suis trop contente de participer à ça.
Stop.
C'est
la
vrai,
meuf
c'est
qui tartine, qui en rajoute des caisses.
Non, non,
et
mais
des
je suis
caisses.
Fière de vous, je suis fière, je trouve ça beau, émouvant, je suis ravie. C'est un projet qui, à mon avis, va nous ouvrir des voies extraordinaires, je suis trop contente.
Ouais, moi aussi, je suis très contente de le faire avec toi en
non,
plus.
Bah, moi aussi. Parce tranquille, que... les pieds sur la table.
Exactement.
Avec un plaid et un thé.
C'est ma passion.
Qui contient 5 sachets de thé.
Exactement, voilà. Pour être au top de la forme.
Pour être à fond, car voilà. Cette nuit j'ai dormi 3 minutes 12. Voilà, donc on va essayer d'être performant quand même.
Et donc, Sors le Popcorn, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est notre podcast ciné-série chez Mademoiselle. Ça sort un mercredi sur deux pour parler du film de la semaine et le dernier vendredi de chaque mois pour parler d'une série du moment. Il y a une partie sans spoiler et une partie avec, et vous aurez une alarme qui vous indiquera quand la partie spoiler commence. Comme okay. Ça, vous pouvez commencer à écouter ce podcast si vous n'avez pas vu le film. Ça vous fait envie, hop, vous y allez. Et après, bah, vous pouvez continuer d'écouter le podcast jusqu'à la fin.
Non, c'est trop bien.
C'est trop bien, hein.
C'est trop bien.
Ah, voilà.
Vous êtes trop forte.
C'est nickel. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial.
Uh-huh.
Parce que... on va pas parler d'un film qui sort au cinéma, mais qui est sorti sur Netflix le 1er novembre. Il s'agit de The King.
The King
de David Michaud. Michaud,
Michaud. En fait, j'ai exactement ce que... j'attendais que tu le dises parce que je sais pas si on dit Michaud, Michaud, Michaud.
Michaud.
Michaud. David I have no Michaud. Idea.
Mais du coup, voilà, c'est un peu spécial parce que du coup, c'est pas une sortie cinéma, c'est une sortie télévision. Et moi, mon prof de cinéma me disait toujours. Le cinéma, c'est que ce qui sort en salle. Mais finalement, avec tous les projets qu'il y a sur Netflix et autres plateformes...
Il avait quel âge ton prof, Sandek ?
Écoute, c'était un prof de classe préparatoire littéraire. Il était un peu... voilà. Il aimait
bon,
bien les cahiers du
bon.
Cinéma. Il aimait bien les cahiers du cinéma, voilà. Moi aussi,
il y a des gens
bien.
Très bien qui aiment les cahiers du cinéma, Alix.
Dont moi,
Il y a des
moi.
Gens très bien qui rêvent d'y travailler, figure-toi.
C'est vrai, c'est ton rêve ?
Non, c'était mon rêve il y a 5 ans, depuis j'ai découvert que j'aimais le fun. Donc, du coup, je suis mieux chez Mademoiselle.
C'est pas faux. Du coup, on va commencer cet épisode avec les classiques recommandations avant de passer au film.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment, Kalindi ?
Ah, je commence moi ?
Ouais, vas-y.
Alors, donc, j'ai appris qu'on n'était pas obligé de dire un truc qui était sorti en ce moment ou de manière récente.
Non.
Donc, j'ai choisi un film qui est sorti l'année dernière. Et pourquoi j'ai choisi ce film ? Alors, j'ai un peu taffé, oui, bien sûr. Comme je savais qu'on allait parler de The King, je voulais parler de l'univers Timothée Chalamet. Et en fait, Timothée Chalamet, il a débuté surtout... Enfin, il a été connu du très grand public avec Call Me By Your Name, qui est un film extraordinaire et solaire. On adore, c'est beau. Allez lire mon super article, ma super critique sur mademoiselle.com.
Qui sera dans les notes de ce podcast.
Évidemment, puisque tu fais un travail brillant, je le souligne encore une nouvelle fois. Et en fait, j'avais pas envie de parler de ce film parce que beaucoup de gens l'ont vu, etc. J'avais envie de parler d'un autre film du réalisateur qui est Luca Guadagnino. Guadagnino.
C'est super dur, j'arrive jamais à l'écrire convenablement.
Moi
non, c'est la première fois.
Si c'est Luca Guadagnino,
ouais,
ou Guadagnino.
Voilà, bref.
Donnez votre avis, bien sûr, sur la prononciation de ce nom qui n'est pas le vôtre en commentaire. Et donc, un autre film de ce réalisateur qui est sorti l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé et qui pourtant s'est fait dézinguer par la critique, et qui est
ah ouais.
Suspiria. Alors Suspiria, c'est un film avec Dakota Johnson, Tilda Swinton, en trop trop talent. Il y a Mia Goth aussi que j'adore. Et en fait, c'est un remake d'un film de 1960. 1917 de Dario Argento. Alors c'est un film d'horreur très macabre, très intello, hein, on va pas se le cacher. Et en fait, je trouve, ce que j'avais envie de souligner en parlant de ce film, c'est la capacité de son réalisateur à sauter d'un style à l'autre avec, dirons-nous, l'agilité du cabri.
Oh my fou.
Puisque donc Luca Guadagnino était connu surtout avant pour des films ultra solaires. En fait, avant Call Me By Your Name, il avait fait A Bigger Splash, qui était l'adaptation, enfin le remake plutôt de La Piscine de Deray, avec.
Il aime bien les remakes.
Il aime bien les remakes.
Finalement.
Il aime bien les remakes et ça ne lui réussit pas toujours, d'après la critique. Mais du coup, en fait, voilà, il s'était habitué à un cinéma ultra lumineux, en plein jour, avec des belles lumières, des acteurs qui s'aiment, qui se déchirent, qui apprennent le désir, la déception amoureuse. Et là, il tombe dans le film d'horreur ultra esthétisé, ultra intello, ça se branle, le cerveau a pas mal de moments, moi c'est le seul point négatif que j'aurais à dire sur Suspiria, mais j'ai trouvé que c'était une proposition ultra audacieuse et ambitieuse. Peut-être que je le pitch d'ailleurs à un moment
oui,
donné.
Oui, peut-être, c'est ce que j'allais te demander. Yes. Ça parle de quoi, Suspiria ?
Alors, Suspiria, c'est l'histoire d'une jeune danseuse en Allemagne, en 1977, date à laquelle est sorti le film de Dario Argento, qui vient frapper à une école de danse ultra prestigieuse, mais dont on ne sait pas vraiment sur quoi se fondent ses principes. Tout le monde a l'impression que c'est un endroit un peu mystique, un peu chelou. On sait juste que le niveau est très haut et que c'est difficile de l'intégrer. Et donc, elle passe un casting et tout de suite, la directrice de l'école est séduite par son style un petit peu désarticulé et très, je sais pas comment dire, moi j'y connais rien à la danse, désarticulé quoi. Et du coup, elle est tout de suite prise dans l'école et elle va vite se rendre compte qu'il se trame des trucs pas tout à fait nets et elle se demande même si les nanas qui enseignent ne seraient pas des espèces de sorcières. Commence une espèce d'épopée complètement abracadabrantesque et qui s'achève bien sûr sur du tragique. Évidemment, ça reste un film d'horreur à la base d'Argento, donc c'est pas gay de ouf. Moi je trouve que c'est vraiment un film ultra ultra audacieux et en fait j'ai l'impression que les critiques parisiens surtout sont pas fans de remake. Alors je trouve qu'en France on est assez fan des suites, tu vois, la suite de Blade Runner a été saluée par l'intégralité de la critique. Après c'est aussi parce que c'est Denis Villeneuve que tout le monde adore globalement, mais la suite a eu droit à des critiques magnifiques. Il y a certains critiques qui ont même dit que la suite surpassait l'original.
C'est rare quand même, enfin.
C'est très rare. C'est très rare.
Ça reste exceptionnel quand même
ça
comme
reste
critique d'une suite.
Mais j'ai l'impression qu'on est quand même vachement plus plus ouvert sur les suites de films que sur les remakes. Le remake, on a du mal ici en France. En tout cas, les critiques ont du mal avec ça, j'ai l'impression. Et du coup, ça se confirme encore une nouvelle fois avec Suspiria. Vraiment, le monde l'a taclé. Tout le monde a dit que c'était ennuyeux, chiant, que ça se branlait, qu'on pigeait rien, que c'était un exercice de style pour être un exercice de style. Moi, j'ai vu autre chose. J'étais fan du film d'origine. Et je trouve que Luca, de son petit nom, lui a redonné un souffle ultra moderne. Attends, il y a des scènes qui sont extraordinaires où on a des danseuses qui se tiennent par la main et elles sont en fait, leur costume, c'est des espèces de cordes rouges qui s'entremêlent. Il y a vraiment une réflexion sur le corps, sur sa manière de vivre, de bouger et sa manière aussi de mourir, avec des passages avec des chairs qui se défont. C'est ultra visuel. Franchement, en fait, que vous aimiez le cinéma d'horreur ou non, essayez de voir ce film pour la performance esthétique, la performance artistique aussi des actrices qui sont toutes fabuleuses et voilà, que dire de plus.
Et pourquoi tu penses qu'il a voulu en faire un remake? Est-ce que le film vieillissait ou est-ce que c'est... Qu'est-ce
qui
a changé par rapport
plaise.
À l'argent?
Franchement, j'ai pas lu ses notes d'intention sur le film, mais je pense que ça devait être un fan d'Argento. Je pense que quand tu fais un remake, en général, c'est que tu voues un certain culte à une œuvre originale. Donc je pense qu'il devait y avoir de l'affect, il a dû avoir une histoire particulière avec ce film. Mais je trouve ça génial et je trouve qu'on n'encourage pas assez les réalisateurs à faire ça. C'est-à-dire que souvent on aime d'un réalisateur qui fasse toute sa vie ce pour quoi il est bon. Sauf que là, il a pris le risque de se dire, voilà, en fait, on m'a connu pour un taf sur l'amour solaire. Aujourd'hui, je vais faire une fable absolument grotesque et abominable sur le corps et sur la féminité. Enfin, je trouve que c'est ultra courageux. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus encouragé dans cette nouvelle démarche qui est de faire quelque chose d'autre que ce pour quoi il est bon. Voilà, je trouve que les critiques étaient un peu faciles. C'est un film qui mérite en tout cas le coup d'œil. On en sort, on ne sait pas vraiment si on a aimé ou si on n'a pas aimé, mais ce qu'on sait, c'est que ça a fait bouger un truc à l'intérieur. Et c'est ça le but, n'est-ce pas, du cinéma.
Ah, oh, magnifique. Merci beaucoup, Kalindi.
Mais je t'en prie. Et toi, alors, dis-donc, Alix, c'est quoi ta petite reco?
Merci de me faire rebondir comme ça. Ma petite reco, ben, écoutez, je suis allée au cinéma ce week-end et j'ai vu le film La Belle Époque de Nicolas Bedos. C'est un film que j'attendais peu parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais voir, en fait. J'avais regardé zéro bande-annonce. Je savais juste que tout le monde en parlait.
Et le synopsis, faut dire, est un peu obscur.
Le synopsis, c'est très obscur. Parce qu'en fait, et à raison, parce que c'est vraiment plusieurs histoires qui sont mêlées. Donc, c'est d'abord, je dirais, l'histoire d'un mec qui monte sa boîte d'événements... Comment je pourrais dire ça ? Il organise des soirées ou des événements où il te replonge en fait dans une époque que tu as choisie. Donc par exemple, si je disais je veux faire une soirée dans les années 20, eh ben il va prendre des acteurs, il va prendre un lieu, il va refaire toute la scénographie, machin, et me foutre là-dedans et me mettre dans un scénario. Enfin voilà. Et du coup, je trouvais déjà le pitch assez intéressant. Et donc c'est sur l'histoire de ce mec. Donc il y a Daniel Auteuil qui est au centre quand même de l'histoire, qui va demander à avoir de nouveau la rencontre avec son plus grand amour, qui était en 74.
Dans les années 70.
Dans les années 70, voilà. Et donc c'est à peu près ça, le pitch autour de ça. Il y a plusieurs histoires qui se déroulent. Il y a une histoire d'amour entre le réalisateur de ces événements et une de ses comédiennes. Il y a l'histoire de Daniel Auteuil et de sa femme, de la femme et de son fils. Enfin voilà, c'est plusieurs histoires mélangées, mais j'ai trouvé le tout hyper dynamique, hyper bien écrit, très... ouais, je sais pas, ça se regarde vraiment facilement et ça reste quand même un film très original, je trouve, pour un film français. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça au cinéma. Je trouve j'ai trouvé ça très intelligent et ça parle d'amour, de nostalgie, de... Enfin voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que je voulais dire de... Oui, il y a une manière de filmer de Nicolas Bedos qui est assez surprenante, qui me fait un peu penser à Pablo Larraine. Tu sais, quand il y a une conversation qui se déroule et en fait, il va couper. La conversation continue, mais ils sont dans une situation différente. Donc, ils sont dans une nouvelle pièce. Enfin, voilà. Et Pablo Larraine fait beaucoup ça. Et moi, j'aime beaucoup ça dans son cinéma. Et là, ça rend le truc, en fait, très dynamique. Parfois, ça va un peu vite, même. Je trouve ça pas mal pour des histoires comme ça. Il y a plusieurs histoires entremêlées. Du coup, je trouve ça fait bien avancer les histoires sans que ça soit tout le film concentré sur elles, en fait. Enfin voilà, du coup,
d'accord, j'ai trouvé que c'était très bien et j'en profite pour conseiller également le film d'avant de Nicolas Bedos, qui je crois était sa première réalisation d'ailleurs.
C'est possible.
Et c'était Monsieur et Madame
Edelman.
Edelman, voilà, je sais jamais si c'est Edelman ou Edelman, qui était déjà ultra intéressant. Et je trouve que Bedos, il confirme son statut de réalisateur prometteur, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer à l'avenir.
Ouais, moi ça m'a un peu rassurée puisqu'on a appris du coup qu'il allait faire le prochain OSS 117.
Oui.
Et Zanavicius, qui est quand même un grand réalisateur.
Qu'est-ce qu'on l'aime ?
Moi,
qu'est-ce
je l'adore.
Qu'on l'aime.
et du coup, de savoir que le troisième c'était pas Zanavicius, déjà ça perd un peu de. Enfin, je sais pas, ça part de son attrait à mes yeux.
Mais il a un vrai génie comique, Nicolas Bedos.
Mais
hein,
oui.
Qui est pas toujours basé sur des trucs qui me passionnent, mais il a un vrai génie comique. Enfin, moi j'aimais. Pas toujours ce qu'il disait à la télévision. À l'époque, il bossait pour Ruquier. Il avait des chroniques, je crois que c'était sur On n'est pas couché. Et ce qu'il faisait était souvent un peu border en termes de sexisme, etc. Mais il faut lui reconnaître un vrai talent de comique, quoi.
Oui, parce que même là, en fait, dans La Belle Époque, c'est parfois drôle. En fait, je trouve ça bien écrit. Les répliques sont cinglantes. Il y a vraiment des dialogues qui sont... Après, moi, je trouve que ça reste quand même très parisien. Mais... il y a vraiment un truc et du coup j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film.
Tout à fait.
Que je vous conseille, qui est toujours au cinéma en ce moment.
Mais bien sûr.
Voilà.
Très beau conseil, très belle reco.
Bah, merci, toi aussi Kalindi.
Mais merci Alix. Qu'est-ce qu'il est bien ce podcast, qu'est-ce qu'on est brillante, dis donc. Pouf.
Ah oui, et aussi je voulais vous parler à vous, chers auditeurs et auditrices. On pensait peut-être faire dans le prochain épisode un segment spécial sur ce qu'on pense des Oscars, enfin pas ce qu'on pense des Oscars, mais
qui on voit bien
qui
gagner,
on voit bien gagner qui on voit bah, déjà sélectionné, enfin voilà.
Yes.
Donc dites-nous, envoyez-nous des messages, soit sur nos Instagram, soit sur le mail de Mimi, ouais. mimi@mademoiselle.com. pour nous dire ce que vous en pensez et si vous êtes chaud pour faire ça.
Je veux pas influencer votre opinion, mais j'ai très envie de faire un segment Oscar.
Mais moi
pour
aussi.
Le prochain épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à dire oui.
Ceux qui diront non, on ne vous écoutera pas. Donc.
Exactement, on le fera quand même.
Bon, et si on passait du coup à, bah, au King,
oui,
à The King.
Au corps de, du podcast, c'est pas mal, oui. Tout à fait.
Alors, écoutez, on va commencer à parler de The King, le film Netflix sorti le 1er novembre 2019 sur Netflix. On va commencer par une partie sans spoiler. Donc, on va d'abord bah, vous pitcher le film.
Et attention, ça va pas être une mince affaire.
En vrai, je l'ai résumé en quelques lignes.
Ah, c'est toi qui le fais ?
Ah bah,
ah bon, ça m'arrange, wesh. Tout à l'heure, j'étais en train de faire le truc dans ma tête. J'étais là, si je me gourde dans les dates, les gens vont m'insulter.
Bah écoute, moi, j'ai simplifié le truc. J'ai dit fin du 14e siècle.
Ah bah voilà, prends pas de risque. Oh,
fin du 14e siècle.
Qu'est-ce qu'elle est maline.
Voilà. Le roi d'Angleterre se meurt. Voilà. Et son fils...
Qui s'appelle comment, le roi d'Angleterre, à l'époque ?
Eh ben...
Henri IV, cher ami.
T'es sûr que c'est Henri IV ?
C'est Henri IV, père de Henri V, lui-même père de Henri VI. Laurent Dutch nous écrira un texto si jamais il pense qu'on raconte des conneries.
Le roi d'Angleterre se meurt et son fils, qui est un poil rebelle, qui s'appelle Hal, mais qui s'appelle aussi Henri en vrai, doit prendre la relève contre son gré. Et en fait, on est en plein contexte de la guerre de Cent Ans et le film va se pencher en particulier sur la bataille d'Azincourt.
Tout à fait.
C'est une bataille qui se déroule en France.
En 1415.
Mais bravo, Khalidi,
j'ai fait mon travail. Super. Journalisme minutieux.
Et donc du coup, c'est l'histoire bah, de ce roi, enfin d'une période de la vie de ce roi, de son accès au trône, d'Henri V, voilà, roi d'Angleterre.
Tout à fait. Je souligne d'ailleurs que ce film est une libre, très très libre adaptation de livres de Shakespeare en réalité, notamment Henri V. Et bon, on en parlera après, mais ce qui a fait que le film a été pas mal décrié par la critique, mais j'imagine qu'on y reviendra plus tard.
Bien sûr. Est-ce que toi, tu attendais ce film et pourquoi ?
Ouais. Alors, je vais pas mentir aux auditeurs et auditrices. La bande-annonce m'avait laissé un peu perplexe. Je savais pas exactement où ça allait nous amener. Ça avait l'air joli. J'étais pas sûre de... Voilà, j'émettais des petites réserves. Et il faut dire que je suis une brêle atomique, une bite énorme en histoire. Je précise pour les auditeurs et auditrices que j'ai eu 5 au bac.
Ah ouais, quand même.
Ah oui, 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 c'est une vraie bite, hein, je dis pas ça.
Ah
oui,
d'accord.
Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça parle d'une bataille, bon, ok, la guerre de 100 ans, ok. Je pense que ça va me passionner beaucoup. Et, mais quand même, je me suis dit, bon, bah, je vais le mater. D'ailleurs, je l'ai maté le jour où il est sorti. C'est de dire que finalement, je l'attendais un peu plus que ce que je voulais bien admettre.
Moi, je l'attendais surtout pour son casting, en fait. Enfin,
bien sûr.
Voilà, j'adore Timothée Chalamet. Oh non, oh non.
Bon, je l'appelle. Alors, j'ai un ami qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je l'appelle Timothée Chalumeau. C'est fou, non ?
Oui.
C'est pas un ami d'ailleurs, c'est un mec que j'ai rencontré une fois.
Belle histoire, merci beaucoup.
Mais de rien.
Non, mais en fait, le cast Timothée Chalamet plus Robert Pattinson plus Lily Rose Depp, j'étais là. Pas mal ce film vieux avec des acteurs jeunes.
Tout à fait, très joli casting. Très très joli casting. Bah, moi aussi, pareil, j'adore Timothée Chalamet. Je l'ai adoré la première fois que je l'ai vu. Et je crois que c'était avant Call Me By Your Name que j'ai vu un peu sur le tard. Je crois que j'avais vu Lady Bird avant, oui. Récit initiatique sur une adolescente par Greta Gerwig.
J'ai adoré ce film.
Qui est très très bien. D'ailleurs, je vous conseille toute la filmographie de Greta Gerwig, qui est vraiment une excellente réalisatrice. Et qui d'ailleurs. Présente un nouveau film en janvier qui est Les 4 filles du docteur Marsh.
Oui, c'est ça. Et où il y aura Emma Watson.
Et Timothée Chalamet de nouveau. Et oui, tout à fait. Non, oui, pareil, moi j'attendais ce film aussi pour son casting. Et j'ai, pour le coup, spoiler, j'ai pas été déçue par la performance de Chalamet qui est décidément à chaque fois, on le voit dans un nouveau rôle et à chaque fois, il excelle. Je recommande au passage également le très beau film avec Steve Carell par Felix van Groningen qui s'appelle My Beautiful Boy sur un jeune camé qui tombe dans le crack, dans l'héroïne. Ouais. Je sais pas, voilà. très très beau film et Chalamet est encore une fois exceptionnel. Donc
c'est vrai qu'il joue extrêmement bien. Il a toutes les cordes à son arc, on dirait.
Tout à fait, c'est un peu la nouvelle figure de proue du cinéma indépendant et je suis vraiment ravie qu'on ait ce genre de talent qui émerge. J'espère qu'un jour, il se mettra à la réalisation. J'ai envie, que je te le disais l'autre jour, que ce soit le futur Dolan. Je sais pas pourquoi, il a la même boucle souple. Je me dis que voilà...
La même boucle.
Et l'œil brillant, là.
Mais d'ailleurs, dans ce film, dans The King, il a quand même une coiffure qui est importante de souligner et ressemble comme deux gouttes d'eau aux chaussées aux moines.
Chaussées aux moines, fois mille. Qui peut se targuer d'être aussi sexy souille avec la coupe d'un vieux curé ?
La coupe d'un vieux curé.
Non, non, franchement, je trouve qu'il a un charisme un peu glacé, un peu glacial comme ça, où il a pas non plus 10 milliards d'expressions qui transparaissent de son visage, mais il a quand même, il dégage un charisme froid qui n'appartient qu'à lui, que j'adore, quoi. Mm. Il est romantique,
exactement.
Quoi qu'il fasse.
Il est romantique, ouais. Exactement. Mais
j'ai envie qu'il peigne des chapelles aussi. J'ai envie qu'il fasse tout.
Kalindi a plein de projets pour Timothée Chalamet. S'il a besoin d'un agent, n'hésitez pas à appeler Kalindi Rumpfel.
Timothée, si tu m'écoutes, glisse dans mes DM sur Insta et on va repeindre des chapelles ensemble.
J'ai hâte de voir ça. Mais moi, j'attendais aussi le film parce que je suis vraiment une grosse fan des films historiques, des biopics et des films d'époque en costume. Mm-hmm. Et vraiment, pour le coup, moi, j'attendais ça avec impatience et j'avais vu les premières images dans des tons assez froids et tout. Et je sais pas, ça me tentait de ouf. Et...
Ah, mais toi, t'as vu la bande-annonce, tu m'as dit « putain, ça a l'air génial ». Je te dis « ah bon ?» Okay.
Ouais, vraiment, ça m'avait trop, trop tenté. Donc moi, je l'attendais effectivement avec beaucoup d'impatience.
Et alors, du coup ?
Eh ben écoute, mon avis général sans spoiler, c'est que je n'ai pas du tout été déçue. J'ai trop trop kiffé et c'est... En fait, le film dure 2h20 quand même, ce qui est assez conséquent. Et on l'a regardé avec Alexia, donc ma colocataire, et elle m'a dit « Oh non, 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 moi je ne regarderai pas jusqu'au bout, en plus j'ai des gâteaux à faire et tout pour mes collègues. » J'ai dit « Ma foi, si tu veux, tu regardes de loin, enfin voilà. » Impossible de décrocher le nez.
Ouais,
et elle a pas fait de gâteau du coup. Hein.
Et ouais.
Et voilà. Et parce qu'en fait, ça dure 2h20 et ça ne se sent pas du tout. Et ouais. Voilà.
Ça, c'est notre avis parce que je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me suis pas fait chier une seule seconde. Et pourtant, après, j'ai été fouillée un petit peu sur le net à la recherche de critiques et je me suis rendu compte que la majeure partie des critiques se sont fait chier, en fait. Se sont fait chier. Et pareil, pourtant, moi, je suis rentrée dans l'intrigue immédiatement grâce au jeu de Chalamet. Puis j'en parlerai plus tard, mais j'aime beaucoup l'évolution de ce héros. Je la trouve hyper intéressante. Et donc je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le film se boit comme du petit lait et on n'a pas le temps de regarder sa montre que c'est déjà fini.
Ouais, c'est ça.
Et
alors qu'il se passe pas non plus. Enfin, ça reste un film pas action-packed quoi. C'est pas non
oui,
plus.
C'est clair.
Mais il y a quand même plein d'intrigues intéressantes.
Y a eu de très 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 belles scènes d'action.
Oui.
La scène de la bataille d'Azincourt justement est absolument sublime. Mais tu veux qu'on y revienne plus tard ?
Ouais, on en reparlera avec les spoilers du coup.
Ah bah oui, très bien, faisons ça.
Et du coup, tu parlais un petit peu des critiques qui sont passées. Qu'est-ce qu'elles disaient en règle générale ?
Alors, en fait, le film a été pas mal décrié parce qu'il ne respecte pas non seulement l'histoire, en fait, donc, non seulement il respecte pas l'histoire, mais en plus il prend également pas mal de liberté par rapport aux bouquins sur lesquels il s'appuie pour créer son intrigue. Donc en fait, le film a été coécrit par le réalisateur et aussi par Joel Edgerton, qui a un rôle primordial dans le film. Ils ont coécrit ensemble et ils ont pris beaucoup de liberté avec l'histoire. Et en plus, le film a non seulement été décrit par des critiques, mais aussi par des historiens, notamment par le directeur du centre d'Azincourt 1415 dans le Pas-de-Calais, qui a dit « On est écœuré parce qu'en 2 heures, ce genre de film vient démolir tout le travail de médiation qu'on effectue ici depuis 8 ans, où les travaux de recherche d'historiens comme Anne Curie ou Bertrand Schnerb, c'est vraiment... hyper inquiétant qu'on puisse réécrire à ce point-là l'histoire et on peut difficilement lutter contre ça. Le grand public préférera toujours un film à un bouquin d'histoire. Là, il y a des gens sous terre, des gens qui sont vraiment morts lors de cette bataille. C'est ça qui me dérange le plus.
Eh ben...
Ouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouïouï Voilà.
Mec drop.
Prends ça dans la gueule.
C'est ça.
Voilà, donc chaud. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une énorme bite en histoire. Ce que je retiendrai de ce film, c'est donc pas la véracité historique, bien que je suis d'accord, ça peut être problématique de ranger un film dans la catégorie film historique et film inspiré de faits réels quand à ce point-là, il prend des libertés avec la période dont il s'inspire. Ça peut être un problème. Toutefois, moi qui ne connaissais pas en détail l'histoire, j'avais un peu lu les œuvres de Shakespeare, notamment parce que pour mon TPE au bac, j'avais choisi les adaptations cinématographiques des œuvres de Shakespeare.
Wow.
Je m'étais déguisée en Richard III, je m'étais recouverte de farine, puis j'étais allée déclamer des machins dans des jardins. J'avais une note de merde. Et on n'a pas du tout rendu justice à mon travail et à mon talent d'actrice. Voilà, j'étais extrêmement déçue. Je suis restée fâchée avec l'histoire, mais point avec la littérature. Donc j'avais quelques réminiscences quand même de Henri V. Mais en fait, les libertés que comprisent les co-scénaristes ne me dérangent pas, puisque pour moi, ce film, ça restait surtout du divertissement.
Oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
Et un très joli divertissement.
Moi, ça m'a poussée aussi à, une fois que je l'avais terminé, à aller rechercher en fait l'histoire derrière et à savoir ce qui s'était vraiment passé. Et c'est là que on voit un peu les divergences qu'il y a entre l'histoire et
tout à fait
et la vraie vie. Mais moi, il faut dire que j'aime bien les films historiques et les films en costume d'époque. Est-ce que toi, t'en as qui te passionnent plus que d'autres, Kalindi?
Oui, tout à fait. Alors déjà, j'aimerais qu'on rende un peu hommage à notre belle patrie, qui est quand même faiseuse de films historiques. Donc j'aimerais parler de La Reine Margot, que j'ai vue quand j'étais très jeune, qui a fait chier pas mal de monde, parce que c'est vrai que c'est très,
chiant.
Très, très long. Et il y a quelques petits passages, quelques ventres mous, dirons-nous. Mais sinon, j'aimerais parler d'un film historique entre grandes guillemets qui est sorti en début d'année, dont Mademoiselle avait été fière partenaire, et je dis vraiment très fière partenaire parce que c'est donc La Favorite,
et très très beau film, oui.
Extraordinaire film, et en fait moi ce que j'aime dans un récit historique, c'est que ils viennent apporter, c'est qu'un réalisateur vienne y imposer sa patte. Et dans La Favorite, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un récit ultra grotesque, que les personnages sont tous ultra grossiers, pour pas dire vulgaires, et ça bouffe n'importe comment, et ça vomit dans des vases, et ça s'insulte, et ça se pousse, et c'est violent. Et en fait, voir un récit historique qui est violent en dehors des champs de bataille, j'ai trouvé ça génial, parce que ce film, c'est la violence psychologique avant tout, la violence des personnages à la cour même, pas à l'extérieur. Ce film est extraordinaire. Donc je vous le conseille, même si lui également prend bien sûr pas mal de liberté avec l'histoire. Donc ce sont, pour ainsi dire, parmi mes films historiques préférés. Et toi, Alex?
Eh ben écoute, moi, il y a un film aussi qui prend beaucoup de liberté avec l'histoire, c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola, une œuvre que j'ai découverte dans ma tendre adolescence, parce que j'adorais Sofia Coppola, mais je l'adore toujours, mais c'est vraiment une réalisatrice, une des premières réalisatrices où vraiment j'ai vu un film d'une réalisatrice. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, un film en étant consciente
que
c'était une femme à la réal et que c'était même un réal, tu vois. J'ai eu peu de culture cinématographique quand j'étais petite. Je regardais pas les films en regardant les noms des réals et tout. Et donc, c'est ça, en fait, qui a un peu commencé ma culture cinématographique, c'est en regardant Sofia Coppola. Et du coup, j'ai enchaîné Virgin Suicide, Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, j'aime beaucoup. Donc, il y a une bande originale très rock. Ça parle de la gourmandise et de la luxure de Marie-Antoinette et de tous ces gens de la cour.
C'est
quoi.
Suivant. Ouais.
C'est vassaux. Non mais voilà, c'est un...
Wesh les gens de la cour.
Voilà, wesh les gens de la cour. mais ouais, du coup, c'est vraiment un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune et que je regarde souvent. Et les costumes sont magnifiques, parce que c'est ça que j'aime bien dans les films de costumes et d'époque. C'est vraiment le décor, les costumes et tout. Et je trouve que là, dans Le Roi, c'est vraiment dans un style différent. Mais ça reste aussi...
Pas mal taffé, ouais.
Très taffé.
Mais
ouais.
Moi, je déteste Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Mais
voilà,
oui,
je le souligne. Je suis pas ultra fan, c'est pas le sujet, hein, mais je le dis quand même, du travail de Sofia Coppola.
Si tu nous écoutes, Sofia.
Ne glisse pas dans mes DM. Sauf si c'est pour me proposer un rôle dans tes films, auquel cas je mettrai un peu d'eau dans mon vin.
Mais tu peux glisser dans mes DM en revanche. Voilà.
Et oui, 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 non, mais je comprends très bien. Et tu voulais pas parler aussi de Bright Star ?
Oui, Bright Star de Jane Campion, mais je crois qu'on l'aime tous les deux, plus que tout ce film.
Jane Campion, qui est la première femme et la seule à ce jour, je crois, à avoir gagné, à avoir remporté la Palme d'Or
à Cannes
pour la leçon de piano, qui est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, bien qu'aujourd'hui, plusieurs femmes et plusieurs personnalités émettent des réserves sur le prétendu féminisme de l'œuvre intégrale.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Je trouve que ça demeure un très très beau film. Jane Campion reste une des réalisatrices contemporaines les plus talentueuses et les plus mises en avant.
Ouais.
Je l'aime beaucoup. Et Bright Star, qui dépeint la vie du poète John Keats et son idylle avec sa voisine. Peut-être que tu veux en dire deux mots.
Mais en fait, moi, c'est une histoire qui me passionne aussi, John Keats, parce que donc c'est un poète un peu maudit puisqu'il est décédé très jeune. Et pareil, cette histoire d'amour est juste sublime. Et il n'y a que Jane Campion pour faire. Enfin, je sais pas, tu dis Campion, toi, moi je dis Campion, mais.
Ouais, moi je dis Jane Campion. À la française.
Jane Campion. pour raconter ce genre d'histoire qu'elle racontait déjà très bien avec La leçon de piano, qui est aussi un film d'époque en costume, mais moins historique, on va dire. Et Bright Star, c'est magnifique de A à Z, la bande originale, les images. Enfin voilà, c'est pas toi
même
qui l'as acheté l'affiche.
J'ai acheté une affiche, vous le saurez, en 120 par 150, qui sera bientôt au-dessus de mon nouveau canapé. Donc je suis ravie. Voilà. On digresse pas mal là, non ?
On digresse pas mal, mais du coup, ce serait peut-être l'heure de passer à la partie spoiler.
Eh bien, allons-y. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le personnage de Timothée Chalamet, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage qui évolue vraiment dans l'intrigue. Et en fait, pour moi, un film initiatique qui est réussi, parce que c'est ce qu'est le roi, c'est un récit initiatique.
Oui, parce que le roi est jeune, en fait, quand il prend le trône.
Le roi est tout jeune, et en fait, avant, il se vautrait dans le stupre et l'alcool, et d'un coup, il est parachuté de moins que rien, de vaurien qui traîne avec des alcoolos notoires. Roi d'Angleterre, ce qui est quand même une ascension pas dégueulasse, mais de la couronne au départ, il ne veut pas, puisque c'est son frère cadet qui est censé avoir la couronne d'Angleterre. Bon, finalement, par un concours de circonstances, il finit par monter sur le trône.
Enfin, par un concours de circonstances, son frère meurt, quoi.
Ouais, son frère meurt. C'est vrai que c'est sans spoiler, c'est avec spoiler
c'est
maintenant,
avec
donc
spoiler,
on peut le dire. Concours de circonstances par les circonvolutions. Phénoménal, des télescopages calendaires. pour moi, un bon héros, c'est un héros qui va pas de lui-même à l'aventure. L'aventure vient à lui. Là, il lui arrive des choses et en fait, il n'est plus la même personne à la fin qu'il est au début. Oui. C'est que du coup, l'initiation est réussie. C'est-à-dire qu'on passe d'un personnage au départ qui est un humaniste pacifiste et c'est ça aussi avec lequel les historiens ont pas mal de mal justement. C'est que ce roi n'était pas aussi tendre que ce qu'on veut bien le montrer dans le film.
En fait, il commence le film. Alors, ne connaissant pas l'histoire, j'ai commencé le film en pensant qu'il avait toujours été rebelle, alors qu'en fait, c'était un grand guerrier avant de se fâcher avec son père.
Tout à fait.
C'était un grand guerrier qui a participé aux nombreuses guerres de son père. Donc, finalement, c'est pas si étonnant que ça qu'il se jette corps et âme dans cette guerre contre la France assez facilement par manipulation, mais quand même assez facilement.
D'ailleurs, c'est dommage que le film n'explore pas vachement plus cette piste-là, parce qu'en fait, on voit Hal casser la gueule d'un gars quasiment au tout début du film et même le buter.
Ouais.
Et en fait, on se dit,
anti-guerre et
exactement,
tout.
Qui est pacifiste, etc. D'un coup, il arrive et bam, il défonce un gars alors qu'on pensait qu'il s'était battu qu'avec des gens dans une taverne après avoir bu trop de bière, tu vois. Donc, c'est dommage que le film n'explore pas ce côté-là. Mais là où le film est très réussi, c'est que je trouve qu'on part de ce personnage que j'aime beaucoup, qui est une espèce de sage au début, qui veut qu'il y ait la paix qui règne dans son pays, qui saute pas à la gorge de tous les gens qui lui font des... Comment on appelle ça ? Oh là là.
Des misères.
Des misères. Et donc, ouais, c'est un humaniste, un pacifiste. Et bien sûr, parce qu'il faut coller un peu à l'histoire et puis parce qu'il faut un petit peu rendre son personnage plus complexe, il commence à virer un petit peu dans la cruauté jusqu'à la fin où il assassine l'homme
son conseiller
qui en réalité l'a trahi
depuis le début en fait depuis il le manipule et c'est pour ça que en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je l'avais pas vu comme ça, j'avais trouvé que le titre du film était un peu une trahison dans le sens où pour moi ça aurait pas dû s'appeler Le Roi parce qu'en fait le roi subit tout ce qui lui arrive. En fait, il n'est que le sujet des manipulations des autres. Et il est, enfin, en fait, pourquoi il va se battre contre, pourquoi il monte sur le trône alors qu'il n'avait pas décidé? Bah, c'est parce que son frère est mort et que tout le monde lui dit qu'il doit le faire. Son père, ses derniers mots, c'est qu'il doit monter sur le trône. Ensuite, il se bat contre les Français alors qu'il ne voulait pas au début à cause d'une machination de ses conseillers, même si elle est valable en fait parce que faut savoir que bah le pouvoir, peut difficilement dans ces temps-là en tout cas l'avoir sans se salir les mains et donc en fait lui il ne veut pas se salir les mains donc ses conseillers le font à sa place en fait entre guillemets donc il s'en va se battre sur le champ de bataille, c'est même pas lui qui décide de la tactique même si elle est encore connue cette tactique guerrière de la bataille d'Azincourt, c'est reconnue encore aujourd'hui comme une des grandes comme un grand exploit de guerre, quoi.
Tout à fait, parce que je précise que, en fait, donc, cette bataille oppose les Français aux Anglais. Et en fait, les Français étaient en large supériorité numérique, puisque je crois qu'il y avait quelques 15 000 personnes prêtes à se battre sur le champ de bataille. Et les Anglais, à contrario, n'étaient que 8 000 et ont pourtant écrasé largement. Les Français. Pourquoi, ouais. Alix ? Comment ?
Eh bien, parce que, justement, en fait, ils ont fait la technique, je dirais, du bison. ils les ont attirés dans une crevasse en faisant mine qu'ils étaient au fond de la crevasse. Et en fait, c'était que des leurres. Et donc, dans cette crevasse, il n'avait plus la veille. Et les gens se sont retrouvés, embourbés dans la boue. Tout simplement.
Tout à fait.
Et en fait, les archers et les autres combattants étaient cachés sur les hauteurs. Et une fois qu'ils se sont tous un peu embourbés, ils sont arrivés en masse et ils ont tué ceux qui restaient. Et ils étaient sans armure, donc ils étaient beaucoup plus agiles. Et c'était vraiment un gros pari, en fait, de partir sans armure. Mais en fait, les Anglais sont très réputés pour les archers anglais, ouais. et pour leur agilité, en fait, au combat. Et notamment grâce à cette bataille, en fait.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est là qu'on peut souligner la super performance de Joel Edgerton,
oui.
Qui joue le fidèle conseiller du roi. Et je trouve cette scène un peu sympa dans le film où en fait il lui dit il va pleuvoir cette nuit, ça va être notre premier atout militaire, les gens vont s'enliser parce qu'ils vont être avec des armures extrêmement lourdes, nous on aura pour nous l'agilité et la rapidité, et donc les autres lui disent mais comment tu sais qu'il va pleuvoir, il dit j'ai toujours mal aux genoux quand il va pleuvoir, et après il y a une scène
tout repose quand même sur un détail
rotulien
comme quoi écoutez vos genoux, peut-être vous pourrez gagner des guerres.
Et en fait après on a une très belle discussion entre le roi et son conseiller, le roi qui reproche au conseiller justement de pas servir à grand chose depuis le début où il est là parce que il ferme pas mal sa gueule alors qu'on l'a pris quand même pour qu'il aide à la technique et à la tactique, et après ils ont toute une très belle conversation à cœur ouvert où on voit vraiment les liens ultra privilégiés qui unissent ces deux hommes. C'est une très belle histoire d'amitié,
oui,
d'ailleurs le
vraiment,
truc
ouais.
Parce qu'en fait ce roi, toute sa vie ce roi est seul parce que comme tu disais tout à l'heure il subit les manipulations des autres et il est, son père est mort, son frère est mort, il n'y a plus personne le pauvre vieux, et il est donc il n'a plus que son conseiller pour l'épauler et être son seul ami, conseiller qui malheureusement, c'est avec spoiler cette partie donc on peut le dire, meurt
die.
pendant la bataille d'Azincourt, ce qui fait que notre pauvre Timothée reste tout seul jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de la fille du roi de France. Qui est campée par Lily Rose Depp et qui deviendra par la suite sa femme.
Et du coup, on peut parler un petit peu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais l'esthétique de cette bataille, la bataille d'Azincourt, en fait, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que je trouve que dans les films de chevaliers, on a souvent des batailles à l'épée. Enfin, après, je sais pas, j'en ai peut-être pas regardé assez, tu vois, mais ça m'a vraiment choqué cette bataille dans la boue comme ça, et vraiment au corps à corps avec leurs armures.
J'suis d'accord.
Et j'ai trouvé ça vraiment choquant, et même au début, la bataille entre Hal et le duc d'en face, enfin le fils du duc d'en face, je sais plus s'il est duc, mais enfin. Et pareil, ils se battent, mais vraiment au corps à corps, en armure et tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même, ces armures qui doivent peser plus de 50, 70 kilos, tu vois. Comment ces gens-là parvenaient à se battre comme ça, enfin, ça m'a impressionné.
Moi, je serais mort d'épuisement c'est 5 minutes.
Moi, j'aurais marché 5 minutes jusqu'au campement et voilà.
Non mais grave, je suis assez d'accord, les chorégraphies sont hyper réussies, c'est en effet ultra intéressant de voir des combats au corps à corps et non pas seulement juste de cheval à cheval et avec des épées. La scène est très belle et en plus t'as ce passage où justement le conseiller du roi est pris en fait dans un espèce de mouvement de foule entre une armée et l'autre qui sont en train de faire corps, et du coup il est bloqué entre ces deux salves d'humains.
Et ce plan de contre-plongée là, de plongée totale,
c'est très beau. Et c'est pas sans rappeler le moment où notre bon Kit Harington se fait dans Game of Thrones, dans la bataille des bâtards, je crois qu'elle s'appelle comme ça.
Oui.
Battle of the Bastards, I think.
I think.
Et, et voilà, donc moi, tout de suite, j'ai pensé à cette scène parce que pour moi, c'est la scène mythique de bataille dans Game of Thrones, puisque dans la dernière saison, par exemple, il y en a beaucoup des scènes de bataille, mais je trouve qu'elles sont assez ratées et que celle-ci est vraiment une réussite en tout point. Et donc, je sais pas si on peut y voir un clin d'œil, j'en sais rien, mais en tout cas, cette scène est très belle et n'est pas sans rappeler, en effet, Game of Thrones. Donc, mais pour revenir, en effet, plus largement à l'esthétique du film, je trouve qu'il y a quelques petites fulgurances, il y a quelques plans séquences qui sont hyper intéressants pendant le combat, justement. Et après, on n'a pas parlé de quelque chose.
Ah oui.
Et oui,
j'allais
pourtant,
y venir.
Aïe.
J'allais y venir parce que j'allais parler un petit peu des points faibles du coup de ce film qui sont...
Ouais.
Bah, qui sont quand même présents parfois. Voilà, donc on a parlé de la déficience un peu historique.
Et bien justement, ça va se rejoindre, puisque je pense que tu vas aborder le sujet du dauphin, du dauphin de France.
On a peu parlé de Robert Pattinson.
Voilà, qui est campé par Robert Pattinson. Et en fait, un des points que soulignaient les critiques et les historiens, c'est que ce dauphin n'a, je crois, pas participé à la bataille d'Azincourt. Et pourtant, en fait, le film se clôt... peu après qu'on ait vu le dauphin être vaincu, et en fait on a
dans un
duel où il est absolument ridicule puisqu'il est lui-même, il n'arrive pas à se battre parce qu'en fait il est avec son armure ultra lourde et il ne fait que glisser dans la boue et tomber, donc il se relève, il glisse, ce qui rend son personnage ultra grotesque, ultra ridicule, et qui vient décrédibiliser toutes les menaces qu'il avait faites avant. Apparemment tout ça c'était pas trop ça, je vais pas m'aventurer dans des exactitudes parce que je suis pas experte en la matière, mais en tout cas, voilà, ce point-là, notamment, a été ultra critiqué, la défaite de cet homme qui, je crois, n'était même pas là. Mais donc, du coup, oui, Robert Pattinson est pour moi le gros point faible de ce film. Je sais pas comment c'est possible, en fait, mais je trouve qu'il livre un jeu d'acteur qui est vraiment laborieux, pour pas dire ridicule.
Mais c'est ça, et en fait, c'est assez surprenant de sa part, qui est plutôt un bon acteur et qui s'est vraiment démarqué de... Enfin, qui... parti un peu de Twilight depuis toutes ces années où il était franchement folichon. Enfin, c'était un voilà.
Bah, le rôle n'était pas folichon.
Le rôle
n'était
pas folichon. Mais après, il s'est quand même démarqué dans High Life,
dans des films plus indés,
dans des films beaucoup plus indépendants. Et moi, je
l'ai
adoré.
The Lighthouse.
Je l'ai adoré dans Good Time.
Ouais, excellent film.
Excellent
film.
Et là, c'est vrai que en fait, je pense. Tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est dû à son accent français. Galère de fou.
Ouais.
Il accentue vachement les R, vachement les O et les U. Et en fait, du coup, ça donne un côté ridicule. Mais je crois que, en fait, il voulait faire en sorte que ce roi soit fou, enfin, ce dauphin soit fou. Du coup, il a un mélange de folie et de problèmes d'articulation. du coup, en fait, je sais pas. Moi, ça m'a choqué vraiment fort. Et puis, avec Alexia, donc ma coloc, on s'est regardé, on a fait. C'est gênant ce qui se passe, c'est horrible.
Je te l'avais pas dit.
Tu me l'avais dit.
Parce que tellement que j'étais choquée, j'ai fait une story pour dire qu'est-ce qui s'est passé là avec notre petit Robert Pattinson qui, en fait, je trouve que souvent aussi, c'est qu'il a des rôles un peu semblables de type Placide, oui, qui aligne pas 800 phrases par minute. Donc là, c'est compliqué parce qu'il est plus dans le texte. Mmh. Et du coup, le texte, comme tu viens de le souligner, il galère un peu à le dire puisque il essaie de prendre un accent qui est pas le sien. Et franchement, les gars, vous auriez pas juste pu prendre un français, c'était plié, tu vois.
Fallait prendre Timothée Chalamet qui sait très bien faire l'accent français.
Et ben voilà, vous inversiez les rôles, merde, c'est pas compliqué. Bon, on va appeler les directeurs de casting. Mais il y a ça, et en fait, il est accompagné de toute une. Le texte est accompagné de toute une gestuelle qui est ultra maladroite. Mmh. Et en fait, ce rôle n'est pas crédible. Et en fait,
ouais, c'est ça. C'est pas crédible.
Et c'est vraiment ultra dommage parce que je comprends bien la volonté de ridiculiser ce personnage historique qui apparemment était pas quelqu'un d'ultra sympa. Mmh. Mais je pense qu'on aurait pu le faire avec plus de finesse et oui, en dirigeant ça un peu mieux le.
Parce
le
qu'en
l'acteur.
Face, t'as quand même Timothée Chalamet qui, lui, est tout en finesse et du coup, en fait, les deux, dans leur scène ensemble. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas dans la même pièce, quoi. Enfin, c'était deux salles, deux ambiances, quoi. Vraiment, c'est c'était. Du coup, c'était assez choquant. Mais je me demande si donc les non francophones qui verront ce film seront aussi choqués que nous, en fait.
C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Avis aux non francophones qui écouteraient un podcast francophone.
Non, est-ce mais ouais, que ça vous pas. Dérange moins quand vous écoutez Pattinson et que c'est pas votre langue natale?
Non, mais parce
c'est
que
possible.
Moi je saurais jamais, enfin, un mauvais accent français en allemand, tu vois, je saurais jamais le déceler.
Contrairement à moi qui suis bilingue. Mais ja, ganz genau. Mais Frühstück. Non, ouais, c'est pour moi c'est le gros point faible si on passe à côté des incohérences historiques qui bien sûr est également un point qu'il faut souligner et un point faible du film. Pour moi le l'autre énorme c'est vraiment la performance de Robert Pattinson qui est vraiment un peu désolante quoi.
Et en revanche, si on peut revenir sur un dernier truc, c'est ouais. le tête-à-tête de Lily Rose Depp et Timothée Chalamet
très
à la
scène.
Fin. Qui est vraiment pour le coup, alors Lily Rose Depp, moi je l'attendais beaucoup plus présente dans le film, je savais pas quel rôle elle aurait, tu vois, mais comme elle avait été vendue dans la bande-annonce et dans voilà, elle a vraiment un tout petit rôle à la fin, donc de fille du roi de France qui est promise à Timothée Chalamet puisqu'il a gagné, donc il s'unit au roi de France et il allait devenir roi de France si le roi actuel mourait. Bon, l'histoire a fait que ça ne s'est pas déroulé de cette façon, mais du coup, il a rencontré Lily Rose Depp et ils ont un dialogue hyper intéressant.
Très.
Et en fait, ça m'a limite. Enfin, j'étais sur ma faim, en fait, parce que j'aurais tellement voulu voir cette relation se développer, tu vois. Et je me demande si vraiment, dans l'histoire, dans le temps, tu vois, elle a été une aussi grande alliée qu'elle a été pour lui dans cette scène où mmh. elle lui dit, elle lui explique, en fait, mais mec, t'as merdé, tu vois. Genre, tu t'es fait influencer de fou. Toi qui dis que t'es le roi et tout.
Elle se fout un peu de sa gueule.
Elle se fout de sa gueule. Et en fait, il le prend pas mal, il va tuer le gars, donc de façon très violente. Et puis ensuite, il revient la voir, il lui fait promettre de toujours lui dire la vérité. Et j'ai trouvé cette scène pleine d'alchimie, pleine d'électricité et tout. C'est vraiment fou comme scène. Elle est...
Je suis d'accord, c'est une des meilleures scènes du film, selon moi. Et c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim, parce que le film dure quand même 2h20. Et je pense qu'au début, il y aurait eu peut-être quelques petites choses à enlever pour justement qu'on explore un peu plus leur relation. Ou qu'au moins, même si on voyait pas ce qui se passait plus tard, qu'au moins on tire un petit peu cette conversation qui, pour moi, aurait bien mérité 5 minutes en plus, parce que vraiment, pour moi, c'est le cœur du film et c'est le cœur de ce qui va se passer après, en fait. Mm-hmm. On est en train d'annoncer que, voilà, en fait, ça va être un couple solide qui va faire avancer l'histoire main dans la main. Alors, je ne sais pas, je vous l'ai répété, je suis une bite en histoire, donc je ne sais pas exactement quel rôle aura eu cette femme, finalement, dans les décisions militaires de son mari. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une scène clé du film. Lily Rose Depp est vraiment donc très peu présente, mais le peu de temps où elle est là, elle excelle par ses capacités à interpréter. Et je trouve que c'est fou parce que Lily Rose Depp, c'est une actrice qui est très jeune et qui a une telle maturité dans sa manière de jouer, de regarder, de déclamer avec intensité. Je lui trouve vraiment un talent extraordinaire. Alors les deux ensemble dans la même pièce, toute cette jeunesse mûre et flamboyante.
Ah bah, toi, ça t'a mis des petites fourmis. Hein.
Ah bah moi, ça... moi, ça m'a... J'ose le dire, ça m'a émoustillée. Hein.
Ouais. Mais moi, tu vois, Lily Rose Depp a tendance à m'agacer parfois. Mm-hmm. Et pour autant, là, j'étais vraiment... Enfin, je suis de mieux en mieux surprise par elle. Ouais. C'est pas français ce que je viens de dire, mais je suis de plus en plus surprise agréablement par elle.
Ma surprise est de plus en plus agréable. Ma surprise est...
Bon alors... bref. Enfin bon, voilà, je voulais un peu clore sur ça, sur cette belle fin de film, en fait, qui est... ouais, qui en fait, elle est un peu le remplacement de son fidèle conseiller qui est mort pendant la bataille, mm-hmm. qui lui avait dit qu'il lui dirait aussi toujours la vérité et ce qu'il devrait faire et ce qui lui ressemble. Et là, pour moi, elle prend le relais et voilà.
Tout à fait.
Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ce film, Kalindi ?
Eh bien non, j'ajouterais que globalement, enfin pour ma conclusion personnelle, c'est que ce film se laisse très bien regarder. Je trouve qu'il est pas chiant une seule seconde. L'esthétique est quand même soignée. On a le droit à quelques fulgurances de réalisation à certains moments du film, surtout la bataille d'Azincourt. Ce film est excellemment interprété par des acteurs de talent qui, je trouve, fonctionnent tous très bien à l'écran. Enfin, il y a une vraie alchimie, je trouve, surtout entre Joël Edgerton et Timothée Chalamet.
Ouais, c'est vrai.
Si on exclut Robert Pattinson et les incohérences historiques, je trouve que ce film est une jolie réussite. Et je voudrais d'ailleurs parler très rapidement. Netflix, je regarde beaucoup les films qui sortent sur Netflix, ouais. Et même s'il y en a que j'ai beaucoup aimé, je trouve que le défaut majeur des films Netflix, c'est que souvent ils sont basés sur trop peu de personnages et que du coup l'intrigue manque de, je sais pas, parfois c'est pas assez fouillé. Et je trouve que dans The King, il y a suffisamment de personnages qui sont développés pour qu'on puisse avoir une intrigue vraiment intéressante avec plusieurs pistes, plusieurs trames. Enfin, j'ai trouvé le film beaucoup plus fort que les derniers films Netflix que j'avais vus et ça m'a rappelé pour moi l'âge d'or un peu du Netflix.
Exactement.
D'il y a quelques années quand Netflix s'est lancé dans la création de films originaux avec son premier film qui était Beast of No Nation sur des enfants soldats en Afrique qui est par je crois Kari et Joji Fukunaga, qui était un film absolument sublime et je crois le premier par Netflix. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, c'était la période que, enfin, ce film, je l'ai trouvé absolument génial. Les films qui sont sortis dans la période qui a suivi, j'ai trouvé sublime également. Et là, je trouve qu'on en revient au film plus spectacle et
cinéma en fait.
Et cinéma.
Et
ouais.
C'est pour ça parce que moi, je trouvais que Netflix, avec aussi son audience grandissante, faisait de plus en plus de téléfilm en fait entre guillemets, ouais. Parce que c'était voilà, ça ressemblait davantage à la télé en fait, et là je trouve qu'on revient vraiment au cinéma et j'étais vraiment déçue de voir ce film que j'ai trouvé génial sur un petit écran, que j'aurais bien aimé avoir mon rétroprojecteur chez moi et le projeter, quoi.
Je comprends tout à fait, comme l'excellent film d'Alex Garland qui est sorti l'année dernière avec Natalie Portman,
Annihilation,
qui était sur Netflix et qui est un film très cinéma qui d'ailleurs a été distribué au cinéma aux États-Unis. Je pense qu'on va avoir droit dans les temps qui arrivent à de très très beaux, très très beaux films.
Mais c'est parce
Netflix.
Qu'on rentre dans la période des Oscars, n'est-il pas ?
N'est-il pas ? Votez oui pour le prochain épisode.
Eh bien, merci beaucoup, Kalindi, d'avoir débattu avec
c'est
moi
fini,
sur
là
The King. Mais non, c'est pas fini. Il va falloir qu'on parle de nos sorties ciné prochainement. Qu'est-ce qu'on veut aller voir au cinéma ou qu'est-ce qu'on a vu et qui sort au cinéma et qui est bien.
Eh bien, puisqu'on parle de Netflix, du coup, il y a Marriage Story et The Irishman qui vont sortir sur Netflix, donc ça, c'est très cool, ça va être dans les semaines qui vont arriver,
c'est
chouette.
Quelle date ?
Il y a The Irishman qui va sortir le 27 novembre.
The Irishman qui est le film
de Martin Scorsese. Et Marriage Story de Noah Baumbach que j'adore.
Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît ?
Non,
parce que
je sais jamais le dire. J'ai toujours un Noah Baumbach.
Parce qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est Baumbach ?
Baumbach. I don't know. Donc voilà, et Marriage Story qui sort le 6 décembre. Donc ça, c'est pour les films Netflix que j'ai vraiment hâte de voir. Sinon, cette semaine au cinéma, vous avez un très joli film qui a été présenté à Cannes et qui sort et qui s'appelle Little Joe. Little Joe, très très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est phytogénéticienne, je crois que ça se dit. En gros, son taf, c'est de créer des plantes. Et en fait, elle en crée une d'un rouge vermillon absolument profond et sublime.
Elle crée des plantes ?
Ouais.
Ok.
Ouais, c'est un taf scientifique, j'ai pas tout pigé, c'était quoi son job, mais c'est pas le propos. En gros, elle crée une plante qui est censée rendre les gens qui les possèdent heureux. Oh. Donc, elle va enfreindre le règlement et offrir une de ses fleurs à son propre fils pour que son fils puisse découvrir le bonheur et que son bonheur soit pérenne. Sauf qu'en réalité, les choses ne vont pas se passer comme prévu, puisque voilà, la grande question, c'est est-ce que cette plante rend les gens si heureux que ça, ou est-ce qu'elle n'a pas également plus d'un tour dans son sac et qu'elle leur nique pas un peu le cerveau.
Voilà. Bah, écoute, ça m'a l'air très original.
C'est très 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 original. C'est distribué par Back Film, qui souvent sort des films ultra intéressants, originaux, sociaux, intelligents et assez pointus. Donc là, c'est une très jolie sortie que je vous recommande chaudement.
Bah, merci d'aller beaucoup. Voir. Et moi, du coup, cette semaine, je vais vous parler de la semaine prochaine, puisque Sort le Popcorn sort toutes les deux semaines. Donc, la semaine prochaine, il y a deux films qui me tentent vraiment d'aller voir. Déjà, c'est La Reine des Neiges 2, parce que, bah voilà, c'est mon,
ouais,
c'est mon côté auteur, c'est mon côté, voilà. Non, mais voilà, j'avais bien kiffé La Reine des Neiges 1, que j'avais vu avec ma petite sœur, qui à l'époque avait 5-6 ans. Et du coup, je me disais, bah, j'aimerais bien aller voir le deuxième avec elle aussi. Donc voilà, et puis c'est un Disney, donc je pense que ça va plaire à plus d'une, d'un d'entre vous.
Oui, sans doute.
Donc voilà, je pense que j'irai avec ma sœur.
Et j'ai hâte de savoir quels sont va se dégager de ce deuxième opus, dont on va nous bourrer le mou pendant 6 ans.
J'en ai fait un article, Kalindi. Je le mettrai dans les notes du podcast. La chanson s'appelle Into the Unknown. Et c'est une chanson qui rentre vraiment très facilement dans la tête.
Yes.
C'est très agaçant.
Trop hâte que tous les enfants du monde chantent ça pendant les 15 prochaines années à tous les événements.
Et tu vois, tu pensais que libérer, délivrer, c'était un peu technique. Into the Unknown, c'est deux fois pire. Donc t'imagines les soirées karaoké avec ça. Ça va être un enfer, en fait.
Bah, c'est pour ça que moi, je vais plus au karaoké.
J'y vais plus, c'est fini.
Oh, j'y vais plus.
Et sinon, donc ça sort le 20 novembre, et il y a un autre film que j'attends énormément qui sort le 20 novembre.
Mais attends, mais moi j'avais pas pigé qu'on pouvait donner des films qui sortaient dans 6 ans et demi, hein. Je croyais que c'était...
Mais le 20 novembre, c'est la semaine prochaine, c'est qu'en gros sort le popcorn, ça sortira, le prochain épisode sera le 27 novembre. Donc en fait, on aura loupé une semaine d'annonce.
Ouais, bah moi aussi je vais dire ce que j'attends le 20 novembre alors.
Mais tu attends le même que moi, je pense, Kalindi, parce que tu attends Les Misérables de Ladji.
Exactement! Voilà. Parle-nous-en un peu, Alix.
Les Misérables, c'est un film qui a fait sensation à Cannes, puisqu'il a reçu le prix du jury cette année. C'est un film de Ladji, donc qui avait déjà co-réalisé à voix haute.
Ouais, c'est ça.
Et là, c'est son premier film, du coup, en solo. Son premier long métrage en solo. C'est un film avec Damien Bonnard, Alexis Mananti, Djibril Zonga. Et donc c'est l'histoire de Stéphane qui est tout juste arrivé de Cherbourg, qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93, mon chez-moi. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, qui sont deux baqueux d'expérience, et il découvre les tensions qui règnent dans le quartier où il intervient. Et donc voilà, ça a fait beaucoup de bruit, j'ai vraiment vraiment hâte de le voir. La bande-annonce en dit pas tant que ça, je trouve, mais c'est assez intriguant. Toi aussi t'as envie de le voir, Kalindi ?
Eh bah moi à fond !
Ah bah super.
Non, j'ai grave hâte de voir Les Misérables. Pour tout vous dire, je suis un peu dégoûtée parce que il y a quelques semaines, j'étais au festival du cinéma américain de Deauville où il était projeté également, et j'ai loupé cette projection parce que je suis allée voir un autre film américain pour le coup, du coup. Et je suis vraiment deg de l'avoir raté parce que tous nos confrères et consoeurs journalistes l'ont vu. Donc je pense que
ça ne tarit pas d'éloges.
C'est vraiment tout le monde, et enfin les critiques sont unanimes. C'est vraiment le film français de cette fin d'année, donc je vais foncer en salle le 20 novembre aller découvrir ce film,
ouais,
qui m'a l'air sublime, et le casting est top, enfin donc trop hâte. Et en plus, quand j'étais à Deauville, ils ont reçu un prix particulier, c'est le prix, je vous dis ça tout de suite, d'Ornano Valenti, et donc l'équipe est montée sur scène, et en fait je trouve qu'ils ont une espèce d'aisance au micro et de naturel qui fait trop plaisir à voir, parce que dans ce genre de cérémonie ultra officielle et ultra pompeuse, et ben un peu de fraîcheur avec des gens qui parlent en fait comme ils parlent dans la vraie vie, sans faire des discours de trois plombes ultra écrits, ben, je trouve que c'est ultra rafraîchissant, et c'est ça aussi que j'attends de ce film, c'est de voir quelque chose d'authentique, voilà, donc ouais. J'ai trop hâte, quoi.
Et on notera donc que c'est le Pacte qui distribue ce film, et il va représenter la France aux Oscars.
Yeah.
Donc d'autant plus une raison d'y aller et de dire oui pour qu'on fasse le segment des Oscars la semaine prochaine.
Les gens les plus forceurs de l'internet.
Eh bien voilà, je crois que ce podcast est terminé, Kaline.
Déjà, non mais attends, oui. mais le temps, ça filoche quoi.
N'hésitez pas à vous abonner à Sors le Popcorn sur Apple Podcast et à vous mettre 5 étoiles parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et puis, on vous dit à la prochaine fois dans deux
semaines. Alors attends, moi j'en profite pour dire aux gens, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Quel Ramphel, en ce moment je stagne un peu et j'aimerais bien voir mes followers augmenter. Je vous promets, ça parlera encore plus de cinéma et de conneries. Voilà.
Eh bien écoutez, j'en profite alors aussi pour dire, allez me suivre sur mon compte Alix Martino, A-L-I-X-M-R-T-N.
Et voilà. Puis, merci beaucoup de m'avoir invité pour cet épisode.
Mais Alix, tu n'es pas invitée, tu es d'office et quand tu ne viens pas, c'est la tristesse.
Ah bah écoute, j'étais ravie de faire ce podcast. J'espère que nos auditeurs et auditrices n'auront pas trouvé ça trop brouillon. Je crois qu'on a parlé de plein de choses parce qu'en fait, ce film, on l'a kiffé, puis on kiffe tellement d'autres films qu'on a envie d'en parler, Alix et moi.
C'est ça.
On a souvent les mêmes goûts, en plus on s'amuse bien
c'est
au bureau.
Vrai.
Oh là, c'est fou. Comme Laron en foire. Laron en foire, Laron en foire. Bon bref, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai vraiment hâte de réenregistrer avec toi et
moi aussi.
Je suis contente.
Merci d'être venue et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà.
Il n'y a pas une phrase de conclu, wesh, là ? Vous n'avez pas taffé une phrase de conclu ? Bon, on va taffer pour la prochaine fois.
Ouais, on va taffer une phrase de conclu. Envoyez-nous vos idées pour une phrase de conclu pour la prochaine fois. Voilà. Allez, bisous !
À ciao, bonsoir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.